En tout cas, il y en a un qui n'est pas déçu du vortex polaire qu'on a en ce moment sur le Québec et à Québec. Fernel Morissette, tu t'ennuyais du froid québécois?
Ben après une année à Londres où genre froid, c'est un moins 2, moins 3 mouillé, là. Un vrai froid, là. Je prendrais pas ça tous les jours, mais une fois de temps en temps, ça rappelle qui on est, d'où on vient, puis qu'on est fait fort.
T'arrives avec le sourire ce matin à Rage Against le matin. Dans content le de t'avoir avec nous.
Ah, tout, show, toujours content d'être ici. Oui, oui. Bon début de la semaine.
Ben merci à toi aussi. Grosse journée du côté des États-Unis qui fait en sorte que c'est une grosse journée politique à l'international aussi.
Veux pas, oui.
Assermentation de Donald Trump. Il y a eu manifestation en fin de semaine, autant pour Trump que contre Trump. Tu t'attends à quoi aujourd'hui, des foules et de la cérémonie?
Déjà, juste hier soir, il y avait une espèce un autre rallye Trump de la victoire. On se rappelle, c'est pas normal. Normalement, les présidents font pas ce genre d'espèce de tournée de victoire après une élection. On essaie de rallier les gens, on essaie de rassembler les gens qui sont pas nécessairement notre bord. Mais c'est dans le style de Trump. Aujourd'hui, inauguration qui va être à l'intérieur pour le froid. On se demande s'il y a peut-être un peu des questions de sécurité là-dessus aussi, parce que oui, il fait froid à Washington, mais il fait pas si froid que ça. Il y a eu des inaugurations dans le passé où il faisait un petit peu plus froid, qui est à l'extérieur. Mais bon, ça reste entièrement légitime. On va voir qu'est-ce qui va se passer. On va voir comment ça va aller. Il y a certainement beaucoup, beaucoup de choses à dire.
Quels sont les premiers décrets qui vont être signés par Donald Trump? Immigration, tarifs douaniers.
La liste est longue, hein?
Oui, c'est ça. On sort les gens qui avaient. À l'intérieur du Capitole de prison. Ça va être quoi, ses premières décisions?
Le président a promis qu'il allait faire un nombre record de décrets. Bon, ben, tu sais, on sait que quand Trump dit ça va être le plus gros, le plus grand, le record, on se bémol un peu les choses. Mais il a indiqué qu'il y aurait une centaine à peu près de décrets qui signeraient la première journée, ce qui serait un chiffre très, très élevé. Là-dessus, bon, on peut imaginer faire probablement des décrets sur les tarifs, il a promis de le faire, des décrets sur l'immigration, il a promis de le faire. En tout cas, moi, vous allez comprendre, vu que je suis très actif sur les médias sociaux, que je suis de très près, un décret sur TikTok. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire là aussi. J'ai l'impression que le monde au complet va regarder décret par décret qu'est-ce qui va sortir de la Maison-Blanche dans les prochaines heures.
On va bien sûr y revenir là, sur toute l'histoire TikTok puis le reste des réseaux sociaux. Mais je veux aussi qu'on prenne un peu de temps pour ce concept-là de décret, parce que, tu sais, expliquer un peu au monde pourquoi un président peut arriver, puis dans sa première journée, c'est comme un move de « je prends tel nombre de décisions, puis je vais faire ça, ça, ça », puis ça a comme pas besoin de passer par quelqu'un d'autre, c'est lui qui décide. Mais il peut juste faire ça cette première journée-là. Comment ça marche, les décrets?
Les décrets, il peut les prendre n'importe quand. Les décrets sont le résultat de choix législatifs. Alors, c'est le Congrès des États-Unis qui crée des lois. Et dans les lois, parce qu'ils réalisent que des fois, les situations vont être complexes, il va falloir agir rapidement, il va falloir agir avec discrétion, ils délèguent au président la capacité de prendre certaines décisions. Alors, dans la loi, ça va être écrit « Voici la situation en général » et on permet au président, selon son jugement, de prendre telle décision, telle décision, telle décision. Ils sont comme un peu entériné d'avance par le Congrès. Alors, ça veut dire que le président peut, n'importe quand, par décret, utiliser les pouvoirs qui lui sont délégués par les lois pour changer les politiques aux États-Unis selon ce qu'il veut.
C'est passé ailleurs avant.
Oui, c'est généralement, c'est ça. C'est des lois qui existent déjà, souvent des lois qui existent depuis longtemps, qui ont créé des agences gouvernementales, ce qu'ils appellent souvent aux États-Unis le « alphabet soup », parce que c'est toutes des organisations qui ont deux ou trois lettres pour les désigner, qui relèvent tous du pouvoir exécutif du président qui lui a été délégué par le Congrès. Alors le président, en tant que délégué du pouvoir législatif, peut, par une simple signature sur un bout de papier, changer beaucoup des orientations du pays.
Fait que, Farnel, est-ce que ça arrive régulièrement quand on a cette journée-là, puis changement au pouvoir, changement de président, qu'on jette aux poubelles ou qu'on déchire des décisions du gouvernement précédent?
Oui, c'est commun. Okay. C'est pas nouveau. M. Trump n'est pas le premier à le faire. C'est sûr que, bon, si on parle d'une centaine de décrets la première journée, là, c'est beaucoup, mais une présidence à travers les 4 ans d'un mandat va généralement faire beaucoup plus qu'une centaine de décrets. Puis le système fonctionne de façon très similaire chez nous aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de pouvoirs qui sont délégués au premier ministre ou au cabinet par des lois qui fonctionnent un peu de la même façon. C'est sûr que ce qu'on voit, par exemple, faire des si gros changements si rapidement, ça fait un peu effet de pensée pendule qui s'accélère, qui peut inquiéter les gens. Je veux dire, moi, je suis un grand partisan du pouvoir législatif plutôt que du pouvoir exécutif. Et voir un pouvoir exécutif qui flexe autant son pouvoir rapidement, c'est quelque chose qui peut, à long terme, affecter la stabilité d'un pays. Mais ça reste légitime, là. Il n'y a pas de question là-dessus.
Farnell, est-ce que Donald Trump a sauvé TikTok aux États-Unis?
Il y a quelque chose. Écoutez, je l'ai devant moi, là, parce qu'un de mes comptes TikTok, que j'ai créé le compte quand j'étais aux États-Unis. Alors, le compte est flagué comme un compte américain. Okay? Puis, alors, j'ai ouvert ce compte-là hier comme 170 millions d'autres citoyens des États-Unis. C'est un des réseaux sociaux les plus utilisés. Je l'ai ouvert et voici ce que ça disait. Puis là, je vais faire la traduction en même temps. Okay? Bienvenue, bon retour. Ça, c'est TikTok qui met ça là, directement à l'avant quand on ouvre. Merci pour votre patience et votre appui. En résultat des efforts du président Trump, TikTok est de retour aux États-Unis. Alors, il y a 170 millions d'Américains qui ont vu ça en ouvrant leur téléphone hier. C'est quand même intense. Il y a quelque chose qui se passe. Puis là, je ne veux pas rentrer dans la spéculation. On va juste parler de ce qu'on peut voir, là. Mais il y a une loi qui a été votée de façon très transpartisane aux États-Unis pour bannir TikTok, qui rentrait en pouvoir dimanche, quand Joe Biden était encore président. Joe Biden a dit « Je vais laisser à Donald Trump la décision de l'appliquer ou non contre TikTok. » Et puis là, officiellement, le président Trump entretenait de l'ambiguïté. Mais on savait que le PDG de TikTok, Shou Chew, allait être invité parmi les dignitaires à l'inauguration de M. Trump aujourd'hui. Il va être là. Et samedi soir, Facebook commençait déjà à offrir aux usagers aux États-Unis de faire un lien formel entre leur compte Facebook et leur compte TikTok. Quand TikTok était supposé, le lendemain, devenir être banni des États-Unis et qu'on ne savait pas ce que M. Trump allait faire. Puis ça arrive. Ça. Alors, on a la déclaration de TikTok qui est très, très pro-Trump, qui est ouvertement, qui fait les éloges de Trump. La semaine passée, il y a un message de Elon Musk qui a été, de Mark Zuckerberg qui a été partagé à travers l'ensemble des États-Unis, mais qui a été vu à travers le monde, où on annonce la fin des fact-checkers, des vérificateurs de faits. Mais en même temps, dans le message, à deux reprises, l'éloge de M. Trump, le salut de son élection comme étant un moment qui va restaurer la liberté d'expression. Alors, clairement, on se range du côté de M. Trump. Elon Musk, évidemment, pendant la campagne, qui a annoncé son appui inconditionnel, qui est devenu à toute fin pratique. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est le co-président des États-Unis présentement. Ce qui veut dire que, bon, on regarde ça aller. Il y a Meta, qui représente Facebook et Instagram. Il y a X, qui est un énorme réseau social. Et il y a TikTok, qui ensemble, ces trois choses-là, c'est plus ou moins l'entièreté des plateformes de médias sociaux qui sont disponibles, qui sont largement utilisées aux États-Unis, qui sont tous en train de se comporter un peu comme des barons médiévaux qui vont à la rencontre du nouveau roi pour lui jurer fidélité après que le roi ait assuré son trône et battu son dernier rival. Une espèce de situation du genre, moi, ça m'inquiète. Ouais. Ça m'inquiète parce que ça veut dire que, bon, ben, oui, il y a eu des accusations par le passé que les médias sociaux coopéraient de façon politique. Mais là, c'est pas juste de la coopération, là, c'est un appui ouvert. C'est des
inconditionnel.
Éloges. C'est ça. On est vraiment en train de dire, nous sommes du bord de M. Trump. Voir des gens qui se comportent de façon inféodée comme ça sur les plateformes qui sont supposées assurer notre communication, on l'espère, neutre, c'est inquiétant. C'est pas nouveau comme inquiétude, mais j'ai l'impression qu'on passe à un nouveau cran.
Je t'inquiète exactement comme toi. Puis, est-ce que je vais trop loin si je pense qu'on s'en va de cette façon de procéder-là? On est comme dans un régime qui va être totalitaire, t'sais, où toute l'information qui va être transmise, va être détenue par une personne, la présidence américaine.
Il y a quelques années, là, je t'aurais dit « Wow, totalitaire, c'est un mot un peu fort », mais présentement, il y a des élus à la Chambre des représentants aux États-Unis qui invoquent ça. On regarde ça, ça ressemble au monde médiatique dans certains pays au monde où le « dear leader » qui est grâce au chef, grâce au président à vie, on a telle chose.
Ça ressemble à la Russie, à la seule différence que là, aux États-Unis, on n'est pas rendu à emprisonner le monde. Mais
non, en effet.
Dans la façon de communiquer, ça y ressemble beaucoup.
Et je veux dire, il y a des gens qui vont dire « Oui, OK, peut-être tout le monde se range du côté de Donald Trump, mais tant qu'on est quand même capable de dire ce qu'on veut, il n'y a pas de censure officielle, tu t'en vas pas en prison, c'est pas un problème. » Mais moi, ce que j'aime rappeler aux gens, c'est que une permission d'expression, c'est pas la même chose qu'une liberté d'expression. Puis ce qu'on a présentement, c'est une permission d'expression sur les plateformes de médias sociaux. J'en suis un grand bénéficiaire, je les utilise énormément, mais il faut toujours se rappeler que c'est pas la même chose qu'une réelle liberté d'expression.
Puis le danger, ou du moins moi comment je le vois, c'est les réseaux sociaux, tu dépends de ce que l'algorithme va décider de te montrer. Moi, sur Twitter, je like pas ben ben d'affaires de complotistes puis de monde qui, semble-t-il, là, que les feux en Californie, c'est le monde qui allume ça, puis que même que les avions là, libèrent des affaires pour accélérer le feu. Puis j'avais liké ça sur Twitter, moi, là, X, là. J'en vois à la tonne. Fait que, tu sais, c'est un exemple parmi tant d'autres que si les algorithmes commencent à juste te montrer des affaires de même, puis là, je dis pas que Trump est dans la gang des complotistes nécessairement, je fais un lien de un réseau social qui me montre des affaires que je veux pas nécessairement voir. Si tout devient de même, que là, tout ce que tu vois sur ces réseaux sociaux, c'est des affaires qui vendent Trump, bien, il est peut-être là le danger.
Je pense que oui. Je pense aussi un autre chose qu'il faut vraiment se garder en tête là-dessus, c'est que depuis l'achat par Elon Musk, Twitter, qui est devenu X, est maintenant privé. Alors, ils ne sont pas obligés de dévoiler comment ils fonctionnent à l'interne. Ils ne sont pas obligés de partager leurs secrets. Ils ne sont pas obligés de partager la façon que leur algorithme fonctionne. Elon Musk en a fait en partie. Il a quand même rendu une partie du code public, mais pas l'entièreté. TikTok ne l'a jamais fait. Il ne veut pas le faire. Même s'est battu bec et ongles contre le gouvernement des États-Unis pour pas que ce soit vendu à des intérêts aux États-Unis. Maintenant, peut-être que ça va se faire. On va voir dans les prochains jours. On sait que les algorithmes Facebook dans le passé ont été utilisés pour influencer la politique. Facebook a ouvertement vendu ce genre de données-là, ce genre d'accès-là. Et c'est toutes des choses qu'on peut avoir l'impression qu'on est dans une réalité de réseaux sociaux neutres, ouvertes, liberté d'expression. Mais tu sais, la liberté d'expression, c'est quand il y a juste un message qui se fait pousser plus qu'un autre, si ça se fait, encore une fois, je ne le sais pas, mais on ne peut pas le savoir. Il faut être conscient que ça aussi, tout comme il y a potentiellement beaucoup de gens qui invoquent la possibilité de billets ou de décisions éditoriales dans le monde de l'information, disons, médiatique, institutionnelle, il faut avoir le même sens critique envers les médias sociaux.
De façon légale, Fernel, ou même politique, y a-tu quelque chose à faire? On peut-tu faire quelque chose? Y a-tu un recours? Parce qu'on parle depuis tantôt, on semble parler du président des États-Unis comme le tout-puissant qui prend toutes les décisions, qui a pas mal carte blanche pour ce qu'il veut faire. Là, il y a l'appui des réseaux. Y a-tu quelque chose? Y a-tu quelque chose à faire pour parler trop loin dans cette situation inquiétante des réseaux sociaux qui back à 100% Donald Trump?
Ben moi, je dirais que dans le monde qu'on a aujourd'hui, là, dans la réalité sociale, politique, le geste le plus radical et le plus pro-démocratie qu'on peut faire, c'est de connaître les noms de ses voisins, puis leur jaser une fois de temps en temps.
Ouais.
C'est fou à dire, là, mais les noms majorité dans nous, on ne les connaît pas. T'sais, allez donc, il fait froid, là, il fait froid aujourd'hui, allez donc cogner à la porte de vos voisins, s'assurer qu'ils sont corrects. Déjà là, ça, c'est un geste extrême. T'sais, c'est un geste qui aurait été totalement naturel il y a deux ou trois générations, qui aujourd'hui est un geste rare, mais je dirais radicalement pro-démocratie, pro-société. Faisons ça.
Ouais.
Je termine, Farnell. J'ai pas le choix de te poser une petite question sur l'Ukraine. Comment qu'on doit se sentir là-bas du côté du président Zelensky avec l'arrivée de Donald Trump qui dit « Je vais mettre fin à ça, moi. » Il appelle ça la Troisième Guerre mondiale. T'sais. Qu'est-ce que tu vois venir dans les prochaines semaines là, pour ce dossier-là très majeur en politique internationale?
On parlait de gens qui vont suivre les décrets un à un qui vont sortir de la Maison-Blanche. J'ai l'impression que le président Zelensky va être parmi ceux. Moi, je pense que ça fait longtemps qu'ils doivent être inquiets, ça fait longtemps qu'ils doivent négocier. J'ai l'impression qu'ils doivent avoir une bonne idée de ce qui s'en vient parce qu'ils ont quand même eu beaucoup de discussions à l'interne par les canaux diplomatiques et autres. Mais disons que ça va être une journée qui va être très anxiogène pour beaucoup de gens dans l'administration Zelensky en Ukraine présente.
Tu as raison, pour plusieurs justement raisons, ça va être important et intéressant de suivre ce qui se passe aujourd'hui là, du côté des États-Unis. Je le dis toujours, je le pense encore, si vous ne suivez pas Farnell Morissette sur les réseaux sociaux, allez le faire, vous n'allez pas être déçus. Il vulgarise tellement bien l'actualité et vraiment toutes sortes de sujets. Farnell, tu le sais, toujours un immense plaisir, c'est sûr qu'on se reparle, ça bouge tellement, là. On va se reparler assez rapidement à Rage Against le matin. Merci d'être venu nous voir ce matin.
Ça me fait toujours plaisir. Merci à vous.
Courte pause à Rage Against le matin, justement. Qu'est-ce qui se passe avec le projet de l'îlot Dorchester? On sait que ça brette pas mal, mais est-ce que ça avance? On est rendu où? Les Trudel vont abandonner? On va de l'avant? On va poser la question à la personne vraiment concernée. William Trudel sera avec nous dans les prochaines minutes. Rage.